Chapitre 8. Ces îles étaient désormais un cercle trop étroit pour les vues ambitieuses de Maria et pour la soif d'applaudissements qui dévorait son cœur. D'ailleurs, le duc, obligé de rentrer dans la capitale, désirait présenter à Madrid ce prodige dont la renommée l'avait précédé. De son côté, Pepe Vera, ayant pris des engagements pour combattre sur la place des taureaux de Madrid, la supplia de vouloir bien faire ce voyage. Il eut lieu, en effet. Le triomphe qu'obtint Maria dans ses débuts sur cette nouvelle scène surpassa encore celui qu'elle avait remporté à Séville. Il eût semblé qu'on fût revenu au temps d'Orphée et d'Amphion et aux merveilles de la lyre des temps mythologiques. Stein en était tout confus. Le duc était ravi. Pepe Vera dit un jour à la chanteuse « Caramba, ils t'applaudissent comme si tu avais tué un taureau de 7 ans ». Maria était entourée d'une cour nombreuse qui se composait de tous les étrangers de distinction qui se trouvaient en ce moment dans la capitale, et parmi eux, il y en avait de recommandables par leur mérite personnel, d'autres par leur rang dans la société. Quel motif les faisait agir? Les uns voulaient se donner grand air, et qu'est-ce que le grand air, sinon une imitation servile de ce que font les autres? D'autres étaient unis par ce même genre de curiosité qui pousse l'enfant à examiner les ressorts du jouet qui l'amuse. Maria se trouva bientôt à l'aise au milieu de ce monde de courtisans. Il n'y avait rien de changé dans le caractère froid et hautain de la jeune femme, mais il y avait plus de grâce dans son talent et de meilleur goût dans sa mise. La nuit, sur la scène, quand le reflet des lumières blanchissait son teint et donnait encore plus de relief à ses grands yeux noirs, elle paraissait vraiment belle. Le duc était tellement fasciné par cette femme, au triomphe de laquelle il avait participé et qui réalisait ses prévisions, il était tellement enthousiasmé de son chant qu'il ne trouva aucun inconvénient à lui demander de donner des leçons de musique à sa fille. Il n'avait cependant pas oublié le pronostic de son aimable ami de Séville et n'était pas sans inquiétude en songeant à l'ajournement à 6 mois que lui avait adressé la comtesse. Il avait alors résolu de respecter la femme innocente qu'il avait lui-même introduite sur la scène. Disons maintenant quelques mots de la duchesse. Cette noble dame était aussi vertueuse que belle. Bien qu'elle eût atteint la trentaine, la fraîcheur de son teint et l'expression pleine de candeur de sa physionomie lui donnaient un air plus jeune. Elle appartenait à une famille aussi illustre que celle de son mari, dont elle était d'ailleurs proche parente. Léonore et Carlos s'étaient aimés presque dès leur enfance de cet amour vraiment espagnol, profond et constant, qui ne se lasse ni ne se refroidit. Ils s'étaient mariés fort jeunes. À 18 ans, Léonore avait donné une fille à son mari, qui en avait alors 22. La famille de la duchesse, comme quelques-unes de celles qui appartiennent à la grandesse, était extrêmement pieuse et Léonore avait été élevée dans les mêmes idées. Sa réserve et son austérité l'éloignaient des plaisirs et du bruit du monde, pour lequel d'ailleurs elle n'avait pas la moindre inclination. Elle lisait peu et n'avait jamais tenu dans ses mains un roman. Elle ignorait entièrement les effets dramatiques des grandes passions. Elle n'avait appris ni dans les livres ni au théâtre l'intérêt puissant qu'on a su donner à certains crimes qui, par conséquent, à ses yeux, étaient demeurés des monstruosités, tout comme le vol et l'assassinat. Elle n'aurait jamais pu croire, quand même on le lui aurait affirmé, qu'on a élevé dans le monde un drapeau à l'ombre duquel on proclame l'émancipation de la femme. Bien plus, forcée de le croire, elle ne l'aurait pas compris, de même que ne le comprennent pas bon nombre d'honnêtes femmes, quoiqu'elles ne vivent ni aussi retirées, ni aussi ignorées que la duchesse. Si on lui eût dit qu'il y avait des apologistes du divorce, et même des détracteurs de la sainte institution du mariage, elle aurait cru qu'elle faisait un mauvais rêve ou que la fin du monde était proche. Fille affectueuse et soumise, amie généreuse et sûre, mère tendre et pleine d'abnégation, épouse exclusivement dévouée à son mari, la duchesse d'Almansa était le type de la femme que Dieu aime, que la poésie célèbre dans ses chants, que le monde admire et vénère. Le duc put se livrer longtemps à l'attrait qu'il éprouvait pour Maria, sans que le plus petit nuage vînt troubler la paix profonde et pure comme le ciel du cœur de sa femme. Cependant, le duc, jusqu'alors si affectueux, la négligeait de plus en plus chaque jour. La duchesse pleurait, mais elle se taisait. Plus tard, elle apprit que cette cantatrice qui mettait en émoi tout Madrid était la protégée de son mari et que celui-ci passait une grande partie de sa vie chez cette femme. La duchesse continua à pleurer, mais sa confiance en lui ne fut pas ébranlée. Ensuite, le duc amena Stein chez lui pour donner des leçons à son fils et voulut presque aussitôt que Marie vint en donner à sa fille, charmante enfant de 11 ans. Léonore s'opposa résolument à cette dernière décision, alléguant qu'elle ne pouvait tolérer qu'une femme de théâtre eût le moindre contact avec cette jeune innocence. Le duc, habitué à la déférence empressée de sa femme, vit dans cette opposition un scrupule de dévote, un manque de connaissance du monde, et persista dans son idée. La duchesse céda, d'après le conseil de son confesseur, mais elle pleura plus amèrement encore, justement émue par un double motif. Elle reçut donc Marie avec une extrême circonspection et une réserve froide, quoique polie. Léonore, qui, conformément à ses goûts tranquilles, vivait très retirée, recevait un fort petit nombre de visites et la plupart du temps seulement de ses parents. Les autres étaient celles de quelques prêtres et d'un certain nombre de personnes intimes. Elle assistait avec l'assiduité la plus persévérante aux leçons de sa fille et elle mit tant de persistance à ne pas la perdre un seul instant de vue que sa conduite ne pouvait manquer de blesser Maria. Les personnes qui venaient voir la duchesse se bornaient à saluer froidement la maîtresse de chant sans songer à lui adresser la parole. Par suite, la situation qu'occupait dans cette noble et austère maison la femme que le public de Madrid adorait à genoux finit par devenir assez humiliante. Maria le comprit et son orgueil s'en révolta. Mais comme l'extrême politesse de la duchesse ne se démentit jamais, comme jamais un sourire dédaigneux ni un regard hautain ne se montra sur son visage, Maria ne pouvait se plaindre. De notre côté, le duc, si plein de délicatesse et de dignité, permettrait-il à quelqu'un de se plaindre de sa femme ? Marie avait assez de pénétration pour comprendre qu'elle devait se taire pour ne pas perdre la bienveillance du duc qui la flattait, sa protection qui lui était nécessaire et ses présents qui lui étaient fort agréables. Il lui fallut donc ronger son frein jusqu'à ce qu'il survînt quelque incident qui mettrait un terme à une situation si pénible pour elle. Un jour que, vêtue d'une magnifique robe de soie et couverte d'une magnifique mantille de dentelle qui permettait de voir ses riches bijoux, elle entrait chez la duchesse. Elle s'y rencontra avec le marquis d'Elda, beau-père du duc, et l'évêque de 3 étoiles. Le marquis était un vieillard grave, trempé à l'antique, espagnol en toutes choses, catholique et franc royaliste. Il vivait retiré de la cour depuis la mort du roi qu'il avait servi pendant la guerre de l'indépendance. Il y avait un peu de froid entre le marquis et son gendre, que le premier accusait d'avoir trop de condescendance pour les idées du siècle. Cette froideur augmenta singulièrement lorsque le bruit de la protection que le duc accordait à une chanteuse de théâtre arriva aux oreilles de l'austère et rigide vieillard. Quand Marie entra dans l'appartement, la duchesse se leva avec l'intention de la remercier et de la congédier pour ce jour-là par égard pour ses visiteurs. Mais l'évêque, qui n'était pas au courant de ce qui se passait, exprima le désir d'entendre chanter la jeune enfant qui était sa filleule. La duchesse se rassit, après avoir salué Marie avec sa politesse habituelle, et fit appeler sa fille qui ne tarda pas à paraître. À peine l'enfant venait-elle d'achever les dernières mesures de la prière de Desdemona qu'on entendit frapper 3 légers coups à la porte. « Entrez, entrez !» dit la duchesse en donnant à entendre qu'elle reconnaissait la personne à sa manière de frapper et, avec un empressement tout nouveau pour Marie, elle se leva et s'avança avec les signes de la plus grande déférence au-devant de la nouvelle visite. Mais Maria fut encore plus stupéfaite en voyant ce nouveau personnage. C'était une femme laide, d'environ 50 ans et de l'aspect le plus vulgaire. Sa mise était aussi grossière qu'elle était singulière et dépourvue de grâce. La duchesse l'a reçue avec de grandes démonstrations de considération et une cordialité d'autant plus remarquable qu'elle contrastait davantage avec la froide réserve qu'elle avait toujours montrée à la maîtresse de chant. Elle la prit par la main et la présenta à l'évêque. Maria ne savait qu'en penser. Jamais elle n'avait vu un pareil vêtement, ni une personne dont la situation lui parut moins en harmonie avec la position qu'elle paraissait occuper, auprès de personnes aussi distinguées et d'un rang aussi élevé. Après un quart d'heure d'une conversation animée, cette femme se leva. Il pleuvait. Le marquis lui offrit sa voiture avec beaucoup d'insistance, mais la duchesse lui dit « Mon père, j'ai donné ordre d'atteler la mienne. » Elle dit ces mots en accompagnant la nouvelle veuve qui se retirait déjà et qui refusa obstinément de faire usage de la voiture. « Viens, mon enfant, dit la duchesse à sa fille, viens, avec la permission de ta maîtresse, dire adieu à ta bonne amie. » Maria ne savait plus que penser de ce qu'elle voyait et entendait. La petite fille embrassa celle que la duchesse appelait sa bonne amie. « Quelle est cette femme ? » lui demanda Maria quand l'enfant regagna sa place. « C'est une sœur de charité, » répondit la petite fille. Maria se sentit humiliée. Son orgueil, qui était prêt à lutter, le front levé, contre toute supériorité et à défier la dignité de la noblesse, la rivalité des artistes, le pouvoir de l'autorité et même la supériorité du génie, fut obligé de plier comme un jonc devant la grandeur de la vertu. Peu après, elle se leva pour se retirer. La pluie continuait à tomber. « Vous avez une voiture à votre disposition, » lui dit la duchesse en la congédiant. En descendant de la cour, Maria remarqua qu'on dételait la voiture de la duchesse. Un laquais abaissa respectueusement pour elle le marchepied d'un fiacre. Maria y monta, le cœur gonflé d'une rage impuissante. Le lendemain, elle déclara ouvertement au duc qu'elle ne continuerait pas à donner des leçons à sa fille. Elle eut bien soin de lui cacher le véritable motif qui la faisait agir et l'adresse de donner à sa conduite l'apparence d'un acte de prudence. Le duc, égaré aussi bien par son enthousiasme pour Maria que par l'habileté qu'elle mit au jeu, supposa que sa femme lui avait donné quelques motifs pour prendre cette détermination et se montra encore plus froid dans son intérieur.